Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Julien Drey ce soir. Bonsoir, cher Julien. Je sais que vous êtes un homme heureux.
Content.
Les Français sont heureux, contents. Voilà. Pourquoi ? Parce que la France est qualifiée.
Moi, je suis un chauvin.
Le huitième de finale.
Bah, je suis chauvin.
Mais oui,
je crois pas.
Faut l'assumer.
Voilà, je suis pas du tout d'accord avec le
Pierre la de compétition Coubertin. En Qatar. Mais non, bon, quand les Français gagnent,
il faut gagner.
On dit bravo. Voilà. Alexandre Devecchio, il est tellement heureux qu'il n'est pas encore là.
Il fête
la victoire dans les coulisses. Il va arriver dans un instant. On va faire le point sur l'information et on va regarder les images. Cette victoire des Bleus. Mais d'abord, le point sur l'info avec Isabelle Puyboulot.
Glissement de terrain en Italie, une femme est décédée et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. De fortes pluies se sont abattues au nord de l'île d'Ischia, au large de Naples, entraînant d'importantes coulées de boue. Les opérations de recherche se poursuivent mais restent compliquées. Les conditions météo ont retardé l'acheminement de renforts par ferry depuis le continent. Drame en Aveyron, deux enfants de 6 et 9 ans sont décédés ce matin dans l'incendie d'un immeuble à Aunay-le-Château. Le feu a pris au premier étage. Les pompiers ont été alertés peu avant 9h30. Les habitants du bâtiment et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées. Une enquête a été ouverte. Et puis, accusé de pousser à la surconsommation, le Black Friday est boudé par certains cette année. Des actions de contestation ont été observées partout en France. L'ONG Attac a notamment visé Amazon avec des affiches collées par des militants. En parallèle, Extinction Rebellion a relayé via Twitter des informations incriminant le géant américain.
Ordonnance.
Voilà pour le point sur l'information. Il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir. La France est qualifiée pour les huitièmes de finale et Alexandre Devecchio est bien présent. Vous inquiétez, voilà. Vous étiez en retard, on s'est dit, mais va-t-on pouvoir débattre ce samedi soir? Je n'ai pas envie de débattre avec Julien Drey.
C'est
à vous de débattre,
oui,
cher Alexandre. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef,
vous avez débattre avec
Le Figaro. Parce que moi, je suis un passeur.
Ah, d'accord.
Je suis ce qu'on va voir à l'image.
Griezmann.
Exactement, la 86e, boum, le centre. Et ensuite, c'est Kylian Mbappé qui doit faire le travail. Voilà. C'est vous, les Kylian Mbappé.
C'est moi, Kylian Mbappé, ouais.
En quelque sorte. Et non, je le dis aux téléspectateurs, on va regarder les images parce que c'est l'information. Et on va regarder les images de l'équipe de France et ensuite, on va passer au débat parce qu'il y a des choses très sérieuses à voir également. Regardons donc ces premières images, l'équipe de France qui a affronté le Danemark pour le deuxième match de la Coupe du Monde. Victoire 2-1 des Bleus après une première mi-temps assez animé mais compliqué. 60e minute, la passe de Hernandez pour Mbappé. C'est son 30e but. À ce moment-là, il rejoint et Papin et Fontaine. Excusez-moi du peu pour Kylian Mbappé. Mais 7 minutes plus tard, il y a un corner. C'est un peu dévié, petit cafouillage. Et qui surgit? C'est Christensen. Christensen, oui, qui est à l'affût. Et puis le but du 2-1 à la 86e minute sur le centre de Antoine Griezmann et le but de Kylian Mbappé. La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est un énorme coup qu'a fait Didier Deschamps. Parce qu'il y a des absents, parce que normalement il y a une malédiction. Ça fait trois compétitions que les vainqueurs des grandes compètes comme ça, ils finissent out dès le premier tour. Là, Didier Deschamps, c'est Harry Potter, je ne sais pas comment il fait, c'est un magicien. On va aller voir Marine Sabourin.
Il a des bons joueurs.
Ah bah bien sûr qu'il a des bons joueurs, ça c'est sûr. Marine Sabourin qui est avec les supporters français. Chère Marine, j'imagine que c'est la joie dans les bars parisiens. Racontez-nous.
Soulagement, comme vous pouvez le voir ici, évidemment tout le monde est content parce que l'équipe du Danemark était redoutable. On a perdu les deux derniers matchs, donc évidemment c'était un soulagement, je vous le disais. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, le comptoir, c'est un petit peu le moment où on est commentateur sportif et donc on va rejoindre Lucas. Comment ça s'est passé ce match? Alors qu'est-ce que vous en avez pensé?
Une bien meilleure deuxième mi-temps. On est super content du résultat, d'être qualifié. Maintenant, on attend les phases finales. Enfin. Ça va être chaud, mais on espère que ça va bien se passer.
On a eu peur ce soir ou pas?
Un petit peu en première mi-temps, ça a été compliqué. Quand on a été rejoint aussi en deuxième mi-temps, mais là, on est quand même soulagé d'avoir marqué en fin de période.
Merci beaucoup, Lucas. Alors, vous le voyez, Eliott, un soulagement. Et donc, on soutiendra les Bleus jusqu'au bout, les Bleus qui rejoignent les huitièmes de finale. On est soulagé, évidemment.
Bravo Marine Sabourin et merci pour ces premiers témoignages des supporters français. La France est qualifiée mais n'est pas sûre d'être premier du groupe. Et en huitième de finale, je le dis très rapidement, vous pouvez avoir la Pologne, l'Arabie Saoudite, le Mexique ou l'Argentine.
L'Argentine.
Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Être premier et affronter peut-être donc le deuxième de l'autre groupe, à savoir l'Argentine, ou jouer la carte de la sécurité et ne pas tomber sur l'Argentine. Alexandre Devecchio.
La dernière fois, on était tombé sur l'Argentine.
Oui, la
2018, l'Argentine en huitième de finale, ça nous avait plutôt porter bonheur. Donc voilà, il vaut mieux les éviter, mais surtout que s'ils passent, ils seront survivants, donc ils sont d'autant plus dangereux. Mais une équipe qui veut être championne du monde doit battre toutes les équipes de toute manière.
Donc premier pour vous, l'Argentine, pas l'Argentine, c'est
oui, il faut
chose.
Être premier. Oui, faut
bravo.
Être...
Julien Drey.
On sera premier, à vu le résultat des deux premiers matchs, il y a très peu de chance qu'on soit deuxième.
Allez-y.
Je pense que ça sera très difficile de...
Ah ben oui, on est sûr d'être premier, vous avez raison. On est sûr d'être premier, je n'avais pas regardé.
J'allais faire la correction mathématique. Je me disais, bon, je l'ai...
Et mince. Et donc c'est...
Mathématiquement, ce n'est plus possible qu'il ne soit pas premier.
Exactement, l'Australie est deuxième avec deux points.
Parce que la Tunisie a perdu face à l'Australie.
Et c'est une catastrophe, ça veut dire que c'est l'Argentine en huitième de finale.
Il faut encore que les Argentins se qualifient.
Il va y avoir un match Australie-Danemark qui va être chaud.
Bon, avançons. Et là, on passe au débat. Voilà ce qu'on pouvait dire. À 19h30, on rejoindra notre envoyé spécial au Qatar, Xavier Girondon. Mais c'est une bonne nouvelle et ça fait plaisir. Bravo à cette équipe de France, qualifiée donc, première de son groupe. Et qui risque d'affronter peut-être l'Argentine en huitième de finale. Passons au débat et aux choses aussi sérieuses. C'est un fait, les Français ne sont pas en sécurité dans les transports en commun. Le gouvernement a décidé de passer à l'offensive et les premiers résultats sont positifs. Gérald Darmanin a d'ailleurs décidé, vous le savez, de doubler les effectifs dans les transports en commun en disant il y a un objectif, c'est la Coupe du Monde de rugby, les JO, zéro délinquance dans les transports en commun. Donc on est allé... sur le terrain, dans le métro aujourd'hui, pour voir un peu ce qui se passe. Et les chiffres sont quand même édifiants. Regardez le reportage, il est signé Jeanne Cancard et Alexandre Distel.
Messieurs, dames, nous annonçons la présence de pickpockets à bord d'un RMP. Faire attention à vos effets personnels, merci.
Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants.
C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention. Et toujours un sac fermé que je tiens contre moi.
D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, ces derniers mois, dans les transports en commun en Île-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
Dans les transports en commun en Île-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Voilà pour ce sujet et ces chiffres qui sont quand même édifiants. 93% des mises en cause pour des vols sans violence identifiés comme étrangers et 80% pour les vols avec violence. Alexandre Devecchio, qu'est-ce que vous retenez de ce sujet ?
On peut voir le verre à moitié plein, effectivement les chiffres qui s'améliorent, ou le verre à moitié vide. Et malheureusement, je pense que ce que les Français retiennent, surtout quand ils prennent les transports en commun, c'est que le métro, notamment le métro parisien, est sans doute l'un des métros les plus glauques de l'Europe. Hein. J'ai la chance de voyager un peu. Avant, même quand je voyageais pas, je prenais la ligne 13, qui, en plus d'être une ligne dangereuse, est une ligne complètement congestionnée. Donc voilà, c'est une situation catastrophique. À mon avis, c'est le signal, d'un basculement de la France dans le tiers-monde. On n'y est pas encore, mais ça en fait partie. C'est un des symptômes. Et donc, le ministère de l'Intérieur a raison de s'attaquer à cela. Moi, je regrette qu'il le fasse, surtout avant les JO. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques en France, on ne s'attaquait pas.
On peut dire mieux vaut tard que jamais, Alexandre Devecchio. On peut se dire heureusement.
Je sais bien
il faudrait des Jeux olympiques tous les deux ans à Paris.
Voilà. Mais je sais très bien que vous êtes assez indulgent avec Gérald Darmanin, donc mieux vaut tard que jamais, d'accord, mais c'est bien tard. Tout de même.
Ça y est, maintenant je suis indulgent avec Gérald Darmanin. Julien Drey.
Mais il y a deux problèmes. D'abord, il y a les conditions de transport qui sont dégradées ces dernières années.
Catastrophique.
Il y a eu des retards qui ont été pris dans les investissements. Il y avait par ailleurs des plans qui étaient faits, mais qui avaient sous-estimé la difficulté des travaux. Et donc, on a une dégradation qui est réelle, des retards nombreux, et surtout sur les lignes populaires et à grosse fréquentation. Et ça, malheureusement, les lignes populaires à grosse fréquentation, c'est évidemment là que les réseaux s'installent. et c'est les réseaux de voleurs, les réseaux de pickpocket, parce que il y a de la bousculade, et c'est dans la bousculade que souvent on tire le sac ou on prend les portefeuilles, etc.
Il y a plus populaire que Trocadéro. Et vous savez que Franklin Roosevelt, Trocadéro, c'est là où
Il y a les lignes populaires et après les lignes touristiques. Trocadéro, c'est une ligne totalement touristique où évidemment il y a des appâts qui sont conséquents pour ces réseaux-là. Après, on se heurte toujours au même problème. On a une délinquance qui est là très caractérisée, en plus, ça, il faut être honnête, dans les transports, par rapport à d'autres actes de délinquance, et qui est très organisée, parce que effectivement, c'est des écoles de pickpocket, c'est-à-dire c'est des gamins qu'on prend, et on sait très bien que justement à cause de la législation, ils vont souvent passer à travers les mailles du filet. Donc il faut s'y attaquer encore plus fort, et surtout arriver à fermer ces bandes qui sont des écoles de délinquance.
C'est un symbole quand même, les transports en commun, quand on voit ces chiffres de la délinquance et de la délinquance étrangère. Il faut le répéter, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers et 80% pour les vols avec violence. Aujourd'hui, qui peut nier ce lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration, attention, et la délinquance? Qui peut le nier?
Je crois que plus personne ne le nie. Le gouvernement lui-même fait le lien avec prudence, mais fait tout de même le lien. D'ailleurs, on a progressé en quelques mois, parce que je rappelle qu'au moment du Stade de France, le même Gérald Darmanin expliquait que ceux qui pointaient la Seine-Saint-Denis étaient racistes, et que c'était les supporters anglais qui avaient dépouillé effectivement les supporters du match. Donc non, plus personne aujourd'hui le lit, mais le phénomène, et c'est pour ça qu'il est très inquiétant, est multifactoriel. Effectivement, il y a la criminalité organisée, les bandes de Rome, disons-le, qui font un travail de je ne sais pas si c'est un travail d'ailleurs, mais qui font les pickpockets. Mais
il y a des professionnels des vols.
Il y a qui sont professionnels des vols. C'est des vols généralement sans violence, mais il y a aussi un climat de violence quand vous rentrez dans le métro. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du tiers-monde. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est une ambiance glauque. Si vous voulez, souvent des drogués sur certaines lignes, de la mendicité parfois agressive, il y a des gens agressifs, violents, et donc c'est tout un ensemble, et ça participe, je crois, grandement au climat d'insécurité dans le pays. Donc oui, il faut s'attaquer au problème des pickpockets. C'est compliqué souvent quand on a en face de la délinquance étrangère, parce que c'est plus difficile à condamner, à mettre hors d'état de nuire, surtout pour des petits délits. Il y a aussi la question des mineurs isolés, mais c'est tout un ensemble. Peut-être même il faudrait mieux contrôler avant de rentrer dans le métro, plus de présence policière, c'est ce qui a été choisi. Je pense que c'est une bonne chose.
Il y a des gens qui changent leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils préfèrent à une certaine heure ne plus prendre les transports en commun de peur et d'être agressés, d'être violentés, et qui vont trouver des alternatives. Julien Dresse, c'est ça aussi la réalité du quotidien certains Français.
Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver d'alternatives.
Qu'ils le subissent.
Je veux dire, il y a quand même, il faut quand même penser à une chose qui est importante. L'Île-de-France n'est pas composée de jeunes sportifs qui sont capables de faire du vélo quand il fait froid, quand il pleut. L'Île-de-France, c'est aussi beaucoup de gens qui ont déjà un certain âge et qui veulent pas prendre le risque de tomber à vélo et d'avoir après les conséquences qui deviennent dramatiques pour elles. On peut pas penser que vélo. Même s'il faut améliorer, mais on doit penser d'abord et avant tout les transports en commun. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. On avait fait des gros efforts. À la fin des années 90, on avait reconquis du terrain de manière importante parce qu'on avait renforcé la présence humaine. On avait mis en place des réseaux de vidéosurveillance très importants. On avait un PC sécurité à la RATP qui était très important. On a relâché la vigilance.
Et d'ailleurs, vous étiez justement très attentif à ces notions de sécurité.
Julien Dresse, un dernier mot,
parce que je veux qu'on parle des soignants non vaccinés.
Oui, sur les soignants, je crois qu'on va se disputer. Là, c'était pour abonder dans le sens de Julien Dresse. Effectivement, les classes populaires qui ont besoin de prendre le métro, qui viennent de banlieue, elles n'ont pas le choix. Bon. Et le tout vélo ou la voiture électrique demain, est une solution d'égoïste. Il faut bien dire ce qu'il y a. Et donc, si on veut que les gens soient un peu plus écologiques, qu'ils prennent au moins les transports en commun, sans parler de vélo ou de voiture électrique, il faudrait que justement ces transports soient propres et sûrs, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et pas congestionnés, parce que ça a été rappelé, certaines lignes ressemblent à des bétaillères.
Allez, Julien, un dernier mot.
Ma remarque, c'est que vous regardez le métro parisien.
Oui.
Il faut regarder ce qui se passe sur la ligne de RER.
Ah bah bien sûr.
Là, c'est la catastrophe.
Catastrophe. Mais je suis 100 fois d'accord avec vous. Mais vous pouvez regarder le métro parisien et vous regardez le métro londonien.
Oui, et rien à voir.
Voilà.
Le métro londonien est nickel. C'est pour ça que je disais, je voyageais. Même Londres n'est pas dans notre situation.
Si vous me permettez, j'ai toujours une pensée pour les voyageurs des RER, de la ligne C, de la ligne D, des choses comme ça.
Eh bien,
là, c'est vraiment l'horreur.
Ayons cette pensée-là, bien sûr.
C'est vraiment très désagréable.
Les soignants. Parce que ça a été chaud hier et je sais que combien de sujets en coulisses comme en plateau, ça a été très intéressant d'ailleurs, sur la question de réintégration des soignants non vaccinés qui a mis l'Assemblée nationale, comme le plateau de Ça se dispute hier, dans tous ses états. La proposition de loi permettait un retour des soignants, je le rappelle, suspendu sous condition d'un test négatif quotidien. LR, RN, LFI étaient d'accord, Renaissance contre. Alors scientifiquement, est-ce que c'est une bonne idée? On a fait ce sujet-là. Regardez le sujet de Clélia Judas.
La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a ses 3 doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors, réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire? Face à cette question, les avis divergent.
Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que d'abord, une personne non vaccinée va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important que dans la société et donc prend des risques pour lui-même d'être contaminé.
On ne peut pas dire que le vaccin ne protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés.
À l'échelle européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce.
Alexandre Devecchio. Vous êtes pour ou contre?
Moi, je suis pour la réintégration des soignants, ne serait-ce que symboliquement, vu dans l'état où est l'hôpital aujourd'hui. On a bien besoin de bras, même si vous me direz c'est pas beaucoup de bras. Je pense que envoyer le signal que c'est un hôpital ouvert et qu'on va pas mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ne sont pas pro-vaccination serait un bon signal. Et puis, je suis pour, tout simplement, parce que ce vaccin, contrairement à ce qu'on nous avait dit, n'empêche pas la transmission. Donc, sur le plan... Enfin, je suis pas scientifique, mais je suis juste rationnel, je fais preuve de bon sens. Ouais. Effectivement, les non-vaccinés sont pas plus dangereux que les vaccinés aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est le motif, il est idéologique. C'est une manière de terroriser ceux qui se sont opposés au gouvernement. Et je trouve ça dommage que le gouvernement fasse le fort, finalement, avec les faibles, les soignants, alors qu'il est si souvent faible avec les forts. On parlait tout à l'heure de délinquance, on pourrait parler d'immigration. On voit que les libertés individuelles sont très importantes lorsqu'il s'agit de migrants. C'est moins grave, apparemment, quand il s'agit de soignants.
Mais
si,
débats.
C'est dans un ensemble.
30 secondes.
Le deux poids, deux mesures
parce
est dans un ensemble.
Il y a une technique qui est de tout diluer.
Je vois que l'Italie, vous voyez l'Italie, par exemple, fasciste,
d'accord, mais bon,
soi-disant.
Mais je ne parle d'Italie fasciste.
Non, mais je ne parlais pas de vous. Certains l'ont dit, semblent attacher plus d'importance aux libertés.
Bon, on peut répondre ? Merci. D'abord, il y a deux débats. Il y a un débat scientifique, et moi je suis étonné que les gens se prévalent maintenant d'une autorité scientifique pour nous dire « moi je sais que le vaccin ne permet pas de la contamination, etc. » On ne sait rien, comme moi j'ai discuté avec ma propre famille qui est pour les vaccins. Voilà, qui est personnel médical de qualité, puisque c'est ma famille. Ils sont pour les vaccins et ils trouvent, eux, que voilà, qu'il faut arrêter avec ça et qu'on les embête là-dessus. Bon, voilà. Alors, d'abord, ça. Alors, je fais une remarque, une petite incise. J'adore Martin Blachier, mais depuis les affaires
du Covid,
là, parce que je l'ai fréquenté sur les plateaux grâce à vous, je l'ai vu dire beaucoup de choses qui étaient parfois très contradictoires.
C'est pas le seul.
Bon, c'est vraiment j'ai l'impression que tout le monde a dit tout et son
c'est contraire. Pour ça, eh ben, merci, très bien, parce que vous validez tout ce que je viens de dire.
Non, parce que j'allais finir sur Martin Blachier en disant que c'était le seul qui annonçait quand même des choses qui arrivaient. C'est peut-être dans ceux qui ont osciller, c'est celui qui avait la meilleure ligne.
Je ne suis pas en train de m'acharner sur Martin Blachier, je suis en train simplement de vous dire que j'ai vu des tas d'autorités scientifiques se prévaloir d'un certain nombre de discours et de savoirs, etc. Puis après, on voyait que ce n'était pas aussi simple. J'ai moi-même, je vous l'avais dit hier, j'ai moi-même, par moment, valider des thèses ou des positions, et puis je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple. Je pense notamment au fameux débat sur la chloroquine. Bon, voilà. Alors, après, je m'excuse, mais vous êtes étonnant. Vous êtes étonnant. Vous avez tellement de volonté de vous opposer au gouvernement et à M. Macron que vous êtes prêt à abandonner tous vos principes. C'est votre droit. Mais normalement, je considère...
J'abandonne pas le principe de la liberté.
Non, c'est pas la liberté, là. Là, c'est le respect d'une décision qui est une décision prise par les autorités politiques par rapport à une situation qui était la situation où on
ne savait pas. La situation a changé, ça ne vous a pas échappé.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes en train de m'expliquer que pour que ça fonctionne, on ferme les yeux sur tout. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de respect, etc. Maintenant, on y va. Bon, on va appliquer la même chose dans d'autres secteurs. Et alors là, je vais vous
c'est
trouver...
moi qui mélange tout, Julien Drac.
Non, et là, dans d'autres secteurs, je vous trouvais... Non, ils ont cet enseignant, il n'était pas habillé comme il fallait, voilà, etc. Vous avez une fermeté absolue. Et des fois, on sera ensemble, parce que moi, je suis pour le respect de l'ordre juste. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise. Je pense que des centaines de milliers de soignants se sont vaccinés. Et je ne vois pas pourquoi l'État, maintenant, simplement pour des raisons de « il faut aller vite et il faut faire », se dédierait. Voilà.
Alors, l'État peut se dédire tout simplement parce que la situation a changé. Je le répète, on n'est plus dans une phase aiguë d'épidémie. On s'est aperçu que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc, il s'honorait à se dédire. Je n'ai pas l'intention d'être contre.
On s'est aperçu d'une chose.
Contre le gouvernement.
C'est que le vaccin ne protégeait pas du fait qu'on attrape le virus, mais il protégeait des formes violentes. Et ça compte, y compris quand vous êtes soignant.
Mais je n'ai pas dit qu'il fallait abandonner totalement le vaccin, notamment pour les personnes faibles. Je dis simplement, est-ce qu'on réintègre ou pas les médecins? Je ne propose pas d'enfreindre la loi, ça ne vous a pas échappé. Je propose de voter aux côtés, une fois exceptionnellement, des insoumis. Ensuite, c'est très intéressant parce que vous me parlez d'ordre et d'ordre juste. Ben justement, je suis pour l'ordre juste. Je ne suis pas pour le centrisme autoritaire où on peut matraquer les gilets jaunes, si vous voulez, être impitoyable avec les soignants qui préféraient ne pas se faire vacciner, et puis pour le reste, faire des coups de menton et être incapable d'enrayer l'insécurité, incapable de respecter ses promesses en matière d'immigration. Donc voilà ce que c'est l'ordre juste, c'est d'être fort avec les forts et d'être humble avec les humbles.
Donc comme sur le reste, on n'est pas fort, et ben soyons pas forts du tout. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. C'est-à-dire, voyez, comme là...
On a été forts pour confiner les Français, Julien Drey, il n'y a pas eu de problème.
Non, vous êtes en train de me dire, là, ça ne va pas. Bon, pour le reste, ça pourrait bien aller, mais finalement, ça n'a pas de sens, on y va. J'ajoute par ailleurs, par rapport
au reportage. Et puis, je suis pour la rédemption, Julien Drey.
Par rapport aux reportages, j'ajoute d'abord que quand vous allez dans l'hôpital, maintenant, tout le monde, on ne vous laisse pas rentrer en n'étant pas masqué. Les gardes à l'entrée, tout le personnel soignant sont masqués. La plupart des soignants font des tests, même quand ils sont vaccinés, font des tests très réguliers. Ils font des tests très réguliers parce que... Oui, mais moi,
c'est dans la proposition.
Non, mais vous
les
pensez
jours.
Aux 500 soignants ou 600 qui voudraient être réintégrés.
C'est plus.
Et non, c'est pas plus.
C'est plus. Et d'ailleurs, on avait Monsieur Servat hier.
Non, mais
attendez, on avait Monsieur Servat.
J'ai regardé. C'est pas plus d'un millier aujourd'hui. Les autres.
Vous commencez par 500 et ensuite vous avez dit un millier.
Voilà. Alors 500 ou un millier. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a 500 000, plus 500 000, après je crois 600 000 personnels médicaux et soignants et soignantes qui eux ont accepté de se faire vacciner. Mmh. Et ils ont accepté, alors que des fois, ils n'avaient pas envie. D'accord. Et ça leur posait beaucoup de problèmes, y compris personnels. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient une certaine conception
je peux répondre
de leur métier.
Même.
C'est la publicité.
Rapidement.
En 30 secondes, après la publicité.
Les autres ont été punis.
On va continuer après la pub.
Puisqu'ils ont été mis à pied. Ils ont été mis à pied sans salaire, on ne fait à personne.
La
conception de la justice.
C'est pas la peine de crier.
Vous avez parlé, je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir.
Pour imposer votre savoir.
Je crée parce que vous me coupez.
Ça, c'est pas du savoir.
Si vous me coupez pas, vous allez voir, ça va très vite et je vais pas crier.
La décibel, c'est pas la vérité.
On va le couper.
Mais excusez-moi, j'observe qu'on est dans une société où il peut y avoir des délinquants, on leur accorde du sursis, on leur fait de la prison. Ah oui. Ensuite, ils peuvent sortir de prison parce qu'ils ont purgé leur peine. Pourquoi les médecins qui ont refusé de se vacciner seraient punis ad vitam aeternam?
Mais la démonstration est parfaite. vous êtes en train de me dire, puisque sur le reste on cède, alors on doit céder aussi. Non. Donc allez-y, mais vous êtes responsable excusez-moi, de toute la cacophonie, de désarticulation.
C'est ça.
Vous
êtes ça.
Le bruit et la fureur, Alexandre Devecchio.
Si j'étais méchant, je dirais que vous êtes un anarchiste.
Oui, un petit côté anarchiste.
Clémenceau disait, je suis anarchiste et conservateur. Reste à savoir dans quelle proportion. Ça me va très bien.
Vous êtes totalement anarchiste.
La publicité, juste après la publicité.
Du respect pour les anarchistes. On revient.
Anarchiste conservateur, vous allez.
À la publicité. On revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le témoignage d'un soignant qui est suspendu. On l'avait hier et justement, il raconte son quotidien. On écoutera M. Serva, le député, qui était avec nous hier soir également.
On refait encore pendant...
On refait le match. Ah bon, ah, écoutez, on refait le match, mais bien sûr, mais vous êtes motivé, vous êtes en pleine forme.
Non, je suis en pleine forme, j'ai déjà utilisé toute l'argumentation. Donc
après, alors, à ce moment-là, on avance. On avance. Oui, ça tourne en rond, comme un ballon. Et justement, on parlera du mondial aussi.
Ils sont plus beaux.
Et à tout de suite. La première mi-temps de sa dispute était animée, mais vous n'avez encore rien vu. Julien Drey et Alexandre Devecchio sont sur le plateau, le point sur l'information. Et on file au Qatar dans un instant.
Les écologistes se cherchent une chef. 6 prétendantes sont en lice. Les votes des adhérents se sont terminés à 17h. La nouvelle dirigeante du Parti des Verts ne devrait pas être officiellement connue ce soir, mais les résultats de ce congrès décentralisé en région permettront de connaître les grands rapports de force. La nouvelle secrétaire nationale sera désignée le 10 décembre. À partir de janvier, le gouvernement va expérimenter un pack nouveau départ pour accompagner les victimes de violences conjugales. Il pourra s'agir d'une allocation, d'un système coupe-fil pour la garde des enfants, d'une insertion professionnelle ou d'un hébergement d'urgence. Le but étant de simplifier les démarches pour les victimes et qu'un seul interlocuteur déclenche les mesures. L'Ukraine commémore le 90e anniversaire de l'Holodomor, période de famine provoquée par le régime stalinien dans les années 30. Avec l'invasion russe, pour beaucoup, l'histoire se répète. Selon Volodymyr Zelensky, les Russes voulaient autrefois détruire par la faim, aujourd'hui par l'obscurité et le froid. Le pays étant en proie régulièrement à des coupures d'eau et d'électricité.
Voilà pour le point sur l'information. On reprend le débat dans un instant sur faut-il réintégrer ou non les soignants non vaccinés. Vous faites la moue, Julien Drey, je la vois, mais quand même, parce qu'on n'a pas tout dit. Et on va entendre un soignant suspendu dans un instant. Mais avant cela, le Qatar, l'information de ce samedi, c'est que la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Bravo à nos Bleus. On rejoint Xavier Giraudon, qui est notre envoyé spécial. Bonsoir, cher Xavier, merci d'être avec nous. Racontez-nous. Alors, on va dire ouf, tant mieux ces Français qui sont qualifiés, mais on commence à avoir un peu les chocottes parce qu'en huitième, il y a une possibilité qu'on rencontre l'Argentine.
Oui, c'est possible, mais le travail est fait. 2 matchs, 2 victoires pour les champions du monde sortants. Et même s'il y a eu la frayeur de cette égalisation, sur un coup de pied arrêté, encore la force des Danois, c'est quand même la meilleure équipe qui a gagné. Moi, j'adore l'allant, la sérénité qui se dégage de cette équipe complètement équilibrée entre jeunes qui ont faim, des ex-doublures qui se montrent. Le match de Dembélé aujourd'hui, pendant une heure, après, il a pioché, mais il a fait tellement de différence qu'il avait bien raison. Il fallait souffler pour Kingsley Coman. Ça montre la grandeur de l'effectif de Didier Deschamps, malgré les absences et la blessure de Karim Benzema, et puis Tchouaméni au milieu. Moi, il y a 2 hommes qui me marquent, et je sais que Julien Drey est un fin connaisseur de foot, c'est pas le seul sur votre plateau, mais lorsque vous avez au milieu dans cette équipe de France, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, vous retrouvez le parfum des grandes équipes d'antan. On n'est pas en train de vous dire que cette équipe va être champion du monde, que c'est la meilleure du tournoi, on dit simplement qu'elle a lancé le premier étage de la fusée, et peut-être même un peu plus. Il n'y a pas de certitude, mais il y a des convictions. On a aimé ces Bleus, prochain match contre la Tunisie, a priori la première place est dans la poche, sauf un énorme renversement de situation. Les Bleus ont assuré avec du jeu et avec Kylian, l'homme des grands matchs, on vous l'avait dit, à la Cristiano Ronaldo. Une première mi-temps, allez, un peu moyenne, et puis 2 buts à l'arrivée. Ça fait 3 en 2 matchs. Elle est bien partie, cette équipe de France.
Merci, cher Xavier Giraudon. Sachez qu'Alexandre Devecchio, il est très bon, hein, également sur le foot.
Moi, j'ai pas de prétention.
Ah non, vous n'avez pas de prétention.
Je n'ai pas de prétention non plus.
Merci beaucoup, Xavier Giraudon. Et on espère vous retrouver dans les prochaines éditions pour faire le point sur les Bleus. Les Bleus, c'est fait. Du talent en équipe de France, du talent sur le plateau de cette dispute. Pourquoi? Parce qu'on était en train de parler avant la publicité de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, il y a vraiment 2 lignes qui sont en train de s'affronter ce soir. D'un côté, la réintégration, c'est non, c'est Julien Drey. La réintégration, c'est oui, c'est Alexandre Devecchio. Hier soir, nous avions un soignant suspendu, docteur, généraliste suspendu depuis 1 an. Il ne travaille plus parce que justement, il n'était pas vacciné. Donc on va l'écouter, on va écouter son témoignage et on continue d'en parler. et on avance.
Ça fait un an que je n'ai pas le droit d'exercer mon métier, ça fait un an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Et moi, quelque part, j'ai fait ce choix, peut-être que je le vis bien, hein, j'ai fait le choix de laisser ce que j'avais, donc de laisser un métier que j'aimais vraiment, de laisser mon statut social, de laisser toute ma réussite. Et tout cet avoir-là, je l'ai mis de côté pour un choix, pour une opinion en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au départ, on nous a mis en avant une façade qui était l'argument sanitaire. Oui, mais on a besoin, pour protéger la population, d'écarter ces gens-là. Et ça, c'était une façade. On nous a dit, tous les pays le font, on fait comme eux. Et aujourd'hui, on sait que cette façade-là, elle tombe. Il n'y a plus de logique sanitaire. Et les seuls arguments qu'on entend sont des arguments idéologiques. C'est-à-dire, maintenant, c'est, mais oui, mais ces gens-là, on ne peut pas les réintégrer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre idée de la science.
Et Alexandre Devecchio, ce qu'il dit, notamment sur les faits que la France fasse figure d'exception, c'est factuel. Aujourd'hui, la majeure partie des pays en Europe ont décidé de lever cette restriction.
Il y avait déjà toute une partie des pays européens qui ne le faisaient pas. Effectivement, l'Italie, qui avait été un des premiers pays à le faire, a choisi de changer de pied. Je pense que je ne suis pas du tout pour être contre le gouvernement, contrairement à ce que dit Julien Dass. C'est tout simplement parce que la situation a changé. Et je crois que ce serait faire preuve finalement d'humilité et d'humanité, du coup, d'en tenir compte. D'autant plus qu'on est dans une situation catastrophique à l'hôpital. Le vrai débat, c'est comment se fait-il qu'on en soit toujours là après 3 années de Covid, que rien n'ait changé, que les personnels soient aussi à l'os. Tout ça, j'aimerais bien que ce soit des questions qui soient posées. Faire l'évaluation du vaccin également. J'observe qu'en Chine, comme ils ont choisi la stratégie justement zéro Covid, confinement, ils n'ont pas d'immunité collective.
Et c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Donc, est-ce que c'est le vaccin en France qui a tout réglé, ou est-ce que c'est l'immunité collective ? Excusez-moi,
mais pas que.
Moi, je me suis fait vacciner, mais je me pose la question.
Bien sûr.
Et j'ai été un bon citoyen, pour le coup, Julien Dray. Mais vraiment, moi, j'ai le bénéfice qui, je n'avais pas vraiment d'intérêt à me faire vacciner. Donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement s'acharnerait à faire de l'idéologie sur une question de santé publique où on devrait être pragmatique.
Je le dis aux téléspectateurs, dans Soir Info Weekend, ce soir, on a un reportage sur la Chine, la situation, la stratégie zéro Covid et la population qui est en train de se rebeller. Vous avez des mobilisations, des manifestations. C'est très chaud en Chine sur la gestion de la crise sanitaire. Julien Dray, un dernier mot là-dessus.
Comme j'ai coupé personne, je peux avoir une minute.
Ah bah vous pouvez même en avoir une 30, mais pas plus. Alors, je ne coupe pas le micro à une 30.
Une remarque, le vaccin en Chine, c'est le vaccin chinois.
Ah oui, il est mauvais. Hein.
Voilà. Donc c'est un mauvais vaccin. Mm. Voilà. Donc c'est quand même un élément important, ils n'ont pas voulu. À l'inverse d'ailleurs des Russes, qui habilement se sont fait procurer des vaccins Pfizer, des choses comme ça. Ils n'ont pas persisté par rapport à ça, ils ont même dupliqué après les vaccins. Voilà. Donc la situation en Chine, elle est particulière parce qu'elle est liée au fait que c'est un régime autoritaire qui a voulu s'en tenir à son vaccin qui n'est pas bon. C'est-à-dire il y a 50% d'échecs. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi je ne suis pas d'accord pour réécrire les histoires a posteriori. Quand il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 6 mois ou il y a 1 an, on n'avait pas de certitude et donc on a fait des choses qui étaient évidemment pour prévenir des situations qu'on ne maîtrisait pas totalement. Troisièmement, moi je m'excuse, mais vous êtes vacciné parce que vous n'avez peut-être pas besoin. Mais moi, par rapport à tous les gens que je fréquentais, j'avais un devoir. Et par rapport à des gens qui pouvaient avoir des maladies lourdes, mon devoir à moi, c'était d'être vacciné. Parce que je ne voulais pas qu'à un moment donné ou à un autre, s'ils avaient le Covid et une forme grave du Covid, je puisse me sentir responsable de ça. Et quand on est un personnel de santé, cette question-là, on ne peut pas la laisser de côté.
Dernier mot.
Non, mais juste un dernier mot qui est toujours le même. Sauf que votre...
Parce que là, vous sortez la carte du devoir.
Effectivement,
il a sorti la dernière carte.
Vous avez sorti la carte de la culpabilisation.
Bien sûr.
Mais votre raisonnement...
Il sort bien carte. Dès que j'ai une carte qui me gêne...
La carte.
Non, mais je peux répondre.
En 10 secondes.
En 10 secondes. C'est simplement que tout votre raisonnement tient si le vaccin empêche la contamination. Or, on a appris a posteriori, qu'il l'empêche. Ensuite, juste un mot sur la Chine. Je ne veux pas copier le régime autoritaire.
Le mot essentiel, on a appris après.
Mais donc la situation a changé.
Bon, voilà. Je ne vais pas dire tu vas la fermer. Devenir la référence, tu vas la fermer. Tu vas la fermer, cette phrase du député Olivier Servat à Sylvain Maillard jeudi a mis l'Assemblée dans tous ses états. Le député Liotte de Guadeloupe risque une sanction. D'ailleurs, la sanction, elle doit être reprise. Elle sera décidée le 7 décembre prochain. Alors, Ce député, il était chez nous hier soir. Il est resté pendant une heure et demie. C'était fascinant, vraiment très intéressant parce que, et je le dis en toute transparence, c'est rare de voir des responsables politiques avoir des positions aussi radicales, mais sur un ton très calme, c'est-à-dire que c'est le calme et la tempête en une seule personne. Donc c'est ça qui était marquant. Et puis
tempête intérieure.
Non, mais oui, il est charismatique, cet homme. Donc il s'est expliqué, et je lui ai posé la question, est-ce que vous regrettez vos propos? Est-ce que vous vous excusez? Écoutez sa réponse. Vous présentez vos excuses ou pas?
Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le collègue dit, oui, il faut qu'on respecte les débats, qu'on respecte la démocratie. La violence n'est pas que dans les mots. La violence est souvent dans les actes. Et vous avez eu un acte violent hier. Vous le savez très bien. Vous avez fait obstruction volontairement alors que vous étiez minoritaire. Vous parlez de pourcentage. Ça fait mal. Quand on parle de pourcentage, on a l'impression qu'on ne parle pas d'hommes et de femmes, qu'on ne parle pas de chair et de sang. Moi, je vous parle d'hommes et de femmes qui, chez moi, sont à peu près 1500 personnes qui ont perdu leur travail depuis plus d'un an, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants ou leurs parents. Je vous parle de personnes qui ne peuvent pas traverser la rue, nous sommes entourés d'eau. Je vous parle donc de souffrance humaine à laquelle j'ai l'impression que vous êtes insensible. Et pire, vous refusez la démocratie parlementaire. Vous refusez la démocratie du peuple. Vous méprisez le peuple, vous méprisez donc les représentants du peuple. C'est violent. Et donc, c'est un réflexe verbal que j'assume tout à fait.
Voilà. Tout est dit, il s'adressait à un député Renaissance qui était sur le plateau et il lui disait, voilà, il y a la violence des mots, mais il y a surtout aussi, aussi la violence des actes et ce qui s'est passé à l'Assemblée jeudi. Est-ce que vous trouvez qu'il est allé trop loin, Alexandre Devecchio? Ça vous a choqué, cette séquence, ou pas?
Alors, Julien Drey va encore dire que je suis un affreux anarchiste, mais moi, j'aime bien...
J'ai du respect pour l'anarchiste, donc je ne vais pas vous traiter d'anarchiste.
C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, d'ailleurs, je l'ai pris...
Une formule polémique.
Je l'ai pris, visiblement, je l'ai pris pour un compliment, c'est
oui,
pour ça que...
C'est pour ça que Il s'en veut. Ça peut pas il s'en veut.
Donc l'affreux anarchiste conservateur que je suis pense que non, il n'a pas été trop loin parce que je suis favorable. Oui, j'ai une forme de libéralisme, pas pour tout, pas sur le plan économique et social.
Dans le temps, on appelait ça un libéral.
Mais j'aime l'idée d'individus libres dans un monde pas totalement aseptisé. Et je veux pas justement que l'Assemblée nationale devienne une espèce de chambre d'enregistrement aseptisée. J'aime bien qu'on y ait le verbe haut, que les échanges soient vifs. Je vais vous dire, c'est le catalyseur des passions de la société. Et quand les passions s'expriment à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est très bien. Ça permet justement qu'elles ne s'expriment pas à l'extérieur dans une situation où non pas seulement d'anarchie, mais de chaos.
Non, écoutez, excusez-moi. Là, c'est la démonstration de ce que j'ai dit tout à l'heure. On est tellement dans la logique de « il faut affronter Renaissance, il faut affronter M. Macron, le mettre en situation très difficile », qu'on prend n'importe quel argument. Tous les parlementaires que j'ai fréquentés, qui étaient de droite, de gauche, et même parfois d'extrême droite, savent que dans l'Assemblée nationale, on peut s'affronter, mais qu'on se respecte. Qu'on se respecte. Et ferme-la, ce n'est pas une marque de respect. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes un enseignant, et que vous êtes dans votre classe le lendemain matin, et qu'à un moment donné ou un autre, un élève se lève et dit « ferme-la », et que vous allez le reprendre, il va dire « ouais, mais à l'école, à l'Assemblée nationale, etc. »
Je lui ai dit hier soir.
J'ai assez... entendu des enseignants me dire, quand je faisais visiter des classes à l'Assemblée nationale, me dire « les questions de l'actualité, c'est pas forcément un bon exemple pour nos élèves, etc. » Et ils avaient pour une part raison, et moi je me mettais même en cause, parce que moi aussi, parfois ça m'arrive de perdre mon calme. Donc moi, j'aurais trouvé totalement juste que votre interlocuteur dise ce qu'il peut dire. Il y a de la violence, j'étais en colère, j'étais énervé, mes mots ont dépassé ma pensée. Et c'était très bien comme ça.
Écoutez, il a dit, j'aurais pu dire tais-toi plutôt que tu vas la fermer. Mais en revanche, qui répond, c'est que la violence, elle est en fait à l'Assemblée
d'accord,
sur le
ça
fond.
Ne justifie... mais attention,
ça ne justifie
attention.
Pas la violence dans les mots.
Si vous, encore une fois, si vous commencez sur cette question-là,
aucune
dire,
justification.
Justifie, après,
en revanche, venons sur le fond. L'obstruction, c'est-à-dire que vous aviez des partis qui se sont accordés en quelque sorte sur cette question des non-vax, que la majorité de relative était en fait minoritaire à l'Assemblée nationale et qu'à coup d'amendement, ils ont fait l'obstruction. Ça s'appelle l'obstruction. Yael Braun-Pivet, c'est pas rien, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est normalement proche du gouvernement. Voilà ce qu'elle a dit dans La Voix du Nord. L'obstruction, c'est la négation même du débat. Certains députés vous diront que l'obstruction est un droit parlementaire, une façon de s'opposer à un texte. Moi, je ne le partage pas. Il ne faut pas utiliser des techniques procédurales pour éviter le débat sur le fond. Et le titre de cet article, c'est l'obstruction, c'est la négation même du débat. Est-ce que vous partagez l'avis de Yael Braun-Pivet? C'est assez surprenant quand même, elle lâche en quelque sorte cette majorité.
J'ai envie de vous dire, oui et non, j'ai dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale était aussi un lieu de lutte où on avait le verbe haut, c'était pas une chambre d'enregistrement morte. Et en fait, l'obstruction, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant dans le jeu parlementaire, mais fait partie du jeu parlementaire. Là, l'originalité de la situation...
Vous balancez 400 amendements en quelques heures.
Laissez-moi finir. L'originalité de la situation, c'est que d'habitude, l'obstruction est pratiquée par les oppositions. C'est dans une chambre, en plus, en France, où le système et où l'Assemblée nationale a en fait relativement peu de pouvoir par rapport à d'autres pays, c'est le moyen de l'opposition pour s'exprimer. Mais là, en réalité, ce qui est paradoxal et assez étonnant, et c'est dû à la situation politique inédite, c'est que c'est le gouvernement qui a qui fait de l'obstruction.
Julien Drey, est-ce que c'est un déni de démocratie ce qui s'est passé?
Alors, deux choses. D'abord, l'obstruction, ça fait partie du débat parlementaire. Ça fait partie du débat parlementaire pour une raison simple, c'est que c'est un droit de déposer des amendements. Et si vous pouvez en déposer, c'est parce que vous voulez à un moment donné que le débat ait lieu dans l'hémicycle et vous voulez prendre le temps du débat. J'ai été dans la majorité comme dans l'opposition et j'ai subi des fois des obstructions et j'en ai mené. Voilà. Et des fois, on a besoin de cela. Pourquoi? Parce que le gouvernement vous prend de vitesse, veut passer un projet à toute vitesse et que le fait que vous déposiez un certain nombre d'amendements permet justement d'avoir un débat avec le pays, d'alerter l'opinion, etc. Donc, voilà. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup réduit les moyens de l'obstruction. On l'a réduit, y compris sur les formes de procédure. Avant, le temps de parole était illimité. Maintenant, il est limité. On fait tomber des dizaines et des dizaines d'amendements, etc. Donc, je peux vous dire que les choses se sont beaucoup réduites. Tout ça parce qu'effectivement, quelques ministres passer trop de temps sur les bancs de l'Assemblée nationale et trouver que c'était énervant pour eux de perdre autant de temps. Voilà. De droite comme de gauche, hein, ces ministres-là. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que je m'excuse de le dire à la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas à elle de juger ça.
Eh ben, elle va réunir tous les présidents partis, je crois, mardi.
C'est pas à elle. Et je remarque une chose, c'est qu'on réforme toujours ceux qui sont majoritaires, ils supportent pas l'obstruction. Donc ils sont toujours en train de réformer, de réformer. Puis un jour, ils repassent dans l'opposition et là, ils se rendent compte des bêtises qu'ils ont faites.
Dernière thématique, il nous reste quelques minutes, à la une du Figaro magazine. Qui pour sauver la droite, avec en photo Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe et Éric Zemmour. Il manque peut-être quelques personnes et personnalités, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une tribune d'Éric Zemmour.
C'est étonnant, si vous me permettez, c'est qu'on mette Éric Zemmour et qu'on ne mette pas Marine Le Pen.
Je peux répondre.
Oui, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Il ne veut pas qu'on parle de la tribune
d'Éric Zemmour. Je vais répondre à une phrase. Qui ont fait la une, ont considéré que Marine Le Pen ne se définit pas elle-même comme de droite. Zemmour est pour l'Union des droites, pas Marine Le Pen. Elle a peut-être raison d'ailleurs, stratégiquement, on pourra en parler, c'est très intéressant. Mais il se trouve qu'elle, elle ne se définit pas comme de droite c'est et vrai. Que c'est un congrès LR. Donc voilà pourquoi Marine Le Pen n'est pas là.
Si c'est un congrès LR, Éric Zemmour, il
ne peut pas l'expliquer. Sauf que Zemmour est pour l'Union des droites.
Il l'explique dans cette tribune d'Éric Zemmour, très intéressante, parce qu'il sort quelques infos dans cette tribune. Où il dit, il parle d'Éric Ciotti. Malin, Éric Ciotti reprend mot à mot mes propos et gagne sa place au second tour de la primaire en annonçant qu'il voterait pour moi contre Macron. Il me l'avouera au téléphone, j'ai fait toute ma campagne sur ton nom. Campagne. Nicolas Sarkozy me l'a dit lors de notre déjeuner. Les LR sont condamnés, ils n'ont pas d'avenir. Leur destin est de finir écartelé entre Macron et toi, pardonnez-moi. Et enfin, partout en Europe, en Suède, en Italie et même en Israël, c'est l'Union des droites qui gagne les élections. Seule la France refuse cette évidence. Giorgia Meloni a fait 4% en 2018. Elle gouverne aujourd'hui. En France, chacun pense gagner seul, alors que cela fait déjà 3 présidentielles que nous perdons. Il a raison ou pas, Éric Zemmour?
Je voudrais faire une remarque, si vous permettez. J'aimerais qu'Éric Zemmour laisse tranquille l'État d'Israël. Parce que le contexte électoral, la délimitation des partis politiques n'est pas de la même nature. Voilà. Et donc, je pense que tout mélanger n'est pas œuvre d'intelligence.
Alors, je vais rejoindre. Il n'y a pas qu'Israël, même mélangé avec l'Italie, le système n'est pas du tout le même. D'ailleurs, Mélanie a été majoritaire, mais sans faire 50% comme en France. C'est un système proportionnel, l'Italie. Donc je pense que ce n'est pas comparable, en effet. Ensuite, je pense que Éric Zemmour et même la droite doivent s'interroger sur leur défaite. Je ne suis pas du tout pour qu'il y ait un cordon sanitaire entre le RN et la droite, mais je crois que crier Union des droites en sautant sur sa chaise, ça ne suffit pas. Si Marine Le Pen a été devant, c'est qu'elle a réussi à s'adresser aux classes populaires. Ce en quoi échoue la droite depuis des années, et Éric Zemmour a échoué aussi. Donc il faut aussi, je crois, qu'ils fassent leur autocritique et qu'ils revoient leur logiciel, qu'ils soient tout simplement un peu plus gaullistes, un peu plus souverainistes. Éric Zemmour aimait citer toujours la phrase de Malraux à propos du RPR en disant que c'était le métro à 6 heures du soir. Je crois que c'est l'objectif. Quand la droite arrivera à s'adresser au métro à 6 heures du soir, alors peut-être qu'elle sera assez puissante pour défier le RN. Là, elle est trop faible, donc je crois qu'il y a un travail de logiciel à faire. Et ensuite, pourquoi pas faire des alliances. Mais je ne crois pas tellement à la stratégie, je crois plutôt au projet.
Julien Drey, en 30 secondes, et après c'est terminé.
30 secondes.
Bah oui, parce qu'après c'est fini, oui. C'est Mathieu Bocoté.
Non, ce que je veux dire, moi je ne suis pas un spécialiste de la droite, donc je ne vais pas répondre à leur place. Je pense qu'ils ont un problème d'identité. Et qu'ils ont par ailleurs, en plus de ce problème d'identité, ils ont des gens chez eux qui s'ingénient à les faire perdre. Parce que quand je vois les rôles des uns et des autres, leur premier problème, c'est qu'ils essayent d'arrêter de se faire cette guerre où dès qu'il y en a un qui commence à avancer, on lui fait un croche-pied pour l'abattre.
Ça s'entend. Sandrine Rousseau a réagi à votre une, en tous les cas du Figaro Mag, elle a mis une certaine vision de l'enfer. Voilà la déclaration de Sandrine Rousseau sur Twitter. Toujours nuancée, mesurée.
L'enfer n'est pas avec de bonnes intentions.
Oui, exactement.
Pas avec de bonnes intentions.
Bon, j'imagine qu'il y a une réponse sans commentaire, bien évidemment. On va terminer en musique, si vous me le permettez.
Ah,
et peut-être qu'on va l'entendre, cette musique. Pourquoi ? Parce que la star américaine Irene Cara, chanteuse de Fame et du tube planétaire Flashdance, est décédée à l'âge de 63 ans, retrouvée morte. Le film Fame, sorti en 1981, elle joue une élève d'un lycée artistique. Et 3 ans plus tard, c'est Flashdance. Vous dansez un peu sur Flashdance ou pas ?
Non, la musique est géniale. Elle donne la pêche.
Si on parle de chansons, vous me permettrez de penser aussi à toutes les femmes iraniennes qui en ce moment se mobilisent.
Vous avez raison. Dans un instant, face à Bocoté, nous on se retrouve à 21h pour Soir Info Week-end, marathon 3h ensemble jusqu'à minuit. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr si vous avez manqué la première partie qui était tout aussi animée que la seconde, pardonnez-moi. Et puis on remercie toutes les équipes en régie. A tout à l'heure.